Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
C'est deux grandes cuillères que je mets de chaque côté de sa tête.
Hippocrate.
En fait, ça va écarter sur toutes les parois pour que la tête, elle descende dedans.
L'oreille interne.
Ça lui fait pas mal. Vous allez sentir que ça prend un peu plus de place.
Une création sonore originale, Canal+.
Alors, on y va. Ça fait un peu de bruit, faut pas que ça vous passe pas.
Épisode 2. Faites votre choix.
On prend plein d'air. Et on y va en pouce.
Mon tout premier accouchement, c'était quand j'étais externe.
Ouais, c'est super ce que vous faites.
Je regardais dans le coin de la pièce, je servais vraiment à rien.
Vous m'écoutez bien ?
Je me suis mise à pleurer
vous
comme une idiote dans le coin.
Petite tête, c'est ça que vous sentez ? Enfin, petite, je sais pas, mais...
Le bébé s'appelait Ulysse.
Ok, on arrête de pousser ? On arrête de pousser, vous faites toute mal, toute mal. Je suis en train d'enlever les cuillères.
C'était en 2015, je me souviens très bien.
Vous êtes là. Ça y est, là vous vous sentez.
C'est sa tête. Sa tête, elle est sortie. Il y a ses épaules qui vont arriver, la première épaule qui est en train d'arriver.
Et après, j'avais aidé
là, j'ai la deuxième épaule.
L'auxiliaire à le peser et à le mesurer et tout. Je ne m'étais jamais sentie aussi puissante que quand je le tenais cet enfant pour qu'il soit mesuré à la bonne taille. Alors que franchement, c'est nul.
Vous êtes prêts ? Regardez qui voilà. N'ayez pas peur, c'est votre sang même, ça. Et voilà. Bonjour, alors
on dit bonjour.
Même parfois, je pleure encore maintenant. Parce que les parents, ils sont tellement heureux en général. Ils pleurent, du coup, tu pleures aussi. Je suis assez caméléon sur les émotions, en fait. Et puis, c'est un soulagement. Enfin, tout le monde ressent dans la pièce en général. Tout d'un coup, il n'y a pas de bruit. Et tout d'un coup, il y a cet enfant qui pleure. Et il crie et il va bien. Et t'as tout qui retombe.
Monsieur, vous voulez couper le cordon ?
Et c'est toujours un moment hyper intense, émotionnellement.
Il faut appuyer fort. Comme quand maman pousse, parfait. Vous pouvez pousser dans le coin.
Ça fait ça à tout le monde, je crois. C'est assez intense.
Elle est en train de vous raconter ses aventures-là. J'étais tranquille. On est venu m'embêter. Vous avez pris un peu sur le ventre, c'est pour le placenta, mais vous ne vous occupez pas de moi.
Ah, elle.
Ça fait mal, hein. Ouais, on va faire une table de suture, il n'y a pas grand-chose. Mais...
J'ai pas beaucoup de souvenirs des premiers patients que j'ai pris en charge. Je me souviens bien d'être allée au bloc opératoire sur des grosses opérations et d'avoir trouvé ça hyper impressionnant. M'être dit, c'est une responsabilité énorme. En fait, là, le mec, il a sa main dans le ventre de quelqu'un, il est en train de toucher tel organe et de faire des sutures avec du fil entre des trucs. Enfin, j'ai trouvé ça, voilà. Je me souviens de m'être dit, voilà, c'est impressionnant quand même. T'as la pression un peu, faut pas rater.
Est-ce que je pourrais avoir des doigtiers aussi, s'il vous plaît ? Enfin, un, ça suffira, je pense.
Je me souviens d'avoir été hyper impressionnée, hyper admirative. De mes internes. Je me disais, waouh, ils ont l'air de savoir tellement de choses. Enfin, je me disais, c'est pas possible que je devienne comme un jour.
Bonjour, Stargate. Moi, je t'avais même pas vu. Alors, Choupinette,
on a fini. Elle va très très bien.
Je regarde juste. Voilà, je n'ai même pas fait de petites traces.
Trop fort.
Alors ? On fait de la résistance ?
Est-ce que tu te demandes comment tu tiens bien assise ?
C'est trop fort.
Est-ce que maman va te voir ?
On s'en va.
Ça, c'est tout bon.
Au revoir, Miss Target. Félicitations, monsieur.
Merci beaucoup.
J'essaierai de passer vous voir ensuite de couche, un peu plus au calme, pour qu'on rediscute. D'accord. Mais déjà, bravo.
Merci beaucoup.
Autorisation, veuillez patienter.
Je prends toujours des Volvic à la fraise, mais que quand je suis à l'hôpital. C'est frais et sucré et ça fait du bien. Et après, je prends des Besto.
Faites votre choix.
Charlotte, gynécologie obstétrique.
Je sais pas, je me souviens de jouer au docteur avec un copain quand j'étais en primaire. Mais je pense pas que je m'imagine dans ma tête que j'allais être médecin. Et non, en vrai, je pense à la fin du collège, je me suis dit que ça m'intéressait. Globalement, j'aimais bien le sang. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'étais hyper curieuse du fonctionnement du corps humain. Quand quelqu'un se coupait, j'avais trop envie de regarder, de m'en occuper et tout ça.
Il y a très très longtemps, quand j'étais petite,
Élodie,
j'étais en voiture avec ma mère. Et puis,
médecine d'urgence.
Tu sais, quand t'es petite, tu discutes avec tes parents, et tes parents ils disent « Ouais, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ?» Tu discutes des métiers. Et moi, à un moment donné, je me disais « Ah, bah, j'aimerais bien aider les gens, être utile, quoi, faire un truc utile. » Ils me disaient « Ah, bah, tu peux être médecin, les médecins, ils aident les gens, ils soignent les gens et tout. » Et moi, je me suis dit « Bah ouais, pourquoi pas ?»
J'ai fait mon lycée à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val d'Oise. Un lycée ZEP avec des profs exceptionnels.
Nathanaël.
Et il se trouve que je...
Anesthésie, réanimation.
Je faisais à cette époque de l'aviron avec des amis qui étaient aussi du coup en terminale. Et un de mes amis, entre autres, s'était inscrit en première année. On ne le voyait pas comme le plus grand bosseur, ce qui nous avait bien fait rire. On lui a dit que c'était peut-être pas très raisonnable, mais qu'il fallait quand même qu'il le fasse. Et que du coup, nous aussi, on allait s'inscrire... pour voir jusqu'où on pouvait aller tous les trois.
J'avais cette idée en terminale que j'avais envie d'avoir un impact énorme dans le monde et tout ça. C'est un peu ridicule comme ça, mais bon.
Et puis, il y a eu l'essor de toutes les séries médicales à la télé avec Dr House, Grey's Anatomy, tout ça. Je crois qu'ont commencé un peu quand on était gamin. Et je les trouvais trop stylées.
Je pense que j'ai commencé à regarder Grey's Anatomy quand j'étais au collège. Ça m'a pas mal influencée, peut-être. Ça faisait un peu rêver.
C'était un peu les rois du monde, tu vois. Ils arrivaient avec leurs blouses dans les couloirs et tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça, c'est trop stylé. Et il y avait Dr. Quinn aussi, Dr. Quinn, meilleure série. C'est une femme médecin et je la trouvais trop cool.
Non, je pense pas qu'il y avait trop de fantasmes de je vais être en blouse et tout le monde va être hyper beau, il va y avoir plein d'histoires d'amour terribles et on va sauver le monde avec des cas graves tout le temps.
Je m'imaginais pas d'ailleurs ce que c'était un métier de médecin, j'essayais de m'imaginer plutôt les études de médecine. Et j'avais l'impression que c'était comme des énormes vacances qui duraient. Pendant, je sais pas, 5, 6, 7, 8 ans. Et je trouvais le concept plutôt sympa de finir avec un métier au bout, diplômé, et d'avoir des études qui avaient l'air plutôt sympas, où on fait la fête, etc. Une sorte de prolongement de mon lycée, quoi, je m'étais dit. Bon, il faut juste passer la première année, et après, on retourne dans cette ambiance lycée. Je m'étais dit que c'était le contrat, voilà.
La première année de médecine, pour moi, était absolument horrible. C'est une année que donc, j'ai eu la chance de l'avoir du premier coup.
Morgane.
J'ai dit que c'est une chance parce que je l'ai eu sur liste d'attente.
Psychiatrie.
J'étais à 6 places derrière le dernier prix. Donc c'était un peu la place de l'horreur.
Et voilà, il y a eu la P1, où j'ai galéré, comme tout le monde. Et c'était nul, et c'était pas du tout plaisant. T'arrives, tu sors, t'as 18 ans, t'es sur les bancs de la fac, t'es 300 en amphi, une promo de 2500. T'as les houblons d'un côté, t'as l'espèce de mythe des études de médecine où on dit genre on va jeter des bananes pourries sur la gueule. L'espèce des légendes urbaines qui sont totalement fausses d'ailleurs.
J'en garde un bon souvenir, je pense que c'était un peu le cauchemar pour certains.
Même avant de commencer la première année, pendant un mois, je me souviens, j'avais déjà fait le gros livre de biocellulaire. Et on se dit que si on fait pas ça, on perd du temps par rapport aux autres. On est déjà dans un esprit concours, 24 heures sur 24, quoi.
Globalement, c'est une année où je me souviens avoir vraiment beaucoup travaillé et pas fait autre chose, vraiment pas grand-chose de plus que visiter toutes les BU de Paris et travailler.
L'entourage voilà, nous souhaite courage, nous dit « Oh là là, c'est génial ce que tu fais, c'est super, bravo !» Les parents sont hyper fiers.
Je vivais soit, on va dire, à mi-temps chez mes parents, soit dans une chambre, dans un appartement à Paris. Ils me faisaient à manger, ils me faisaient mon linge, donc j'avais quand même un confort notable, on va dire.
Mon père, d'ailleurs, trop mignon, qui me faisait des petits déjeuners tous les week-ends. Moi, j'aimais bosser le matin, donc je me levais à 5h du matin, plutôt que de bosser la nuit, et du coup, je m'endormais plutôt tôt à 22h. Et du coup, lui, il se réveillait, c'est celui qui se réveillait plus tôt après moi. Et donc, il passait à la boulange, il me faisait un petit plateau avec mes pains au chocolat, un verre de jus d'orange. Et quand il n'y avait pas de pain au chocolat ou qu'il avait flemme de sortir, il me faisait une petite assiette avec genre des fingers ou des petits écoliers, tu vois. Un petit déj comme ça qui me ramenait pendant que j'étais en train de bosser dans ma chambre, c'était trop mignon.
Je suis descendue à 42 kilos. Ma mère, elle me forçait à manger des œufs durs à 10 heures du matin pour avoir des protéines. J'avais des compléments nutritionnels. Enfin, c'était l'horreur, quoi.
Je me souviens très bien des vacances de Noël où mes parents étaient partis au ski avec mon frère et moi, j'étais à Paris.
Où il y avait le concours en décembre. Je sentais bien que j'étais au maximum de ce que je pouvais faire, mais que ça allait être compliqué. Mais il y avait le deuxième semestre pour remonter dans le classement, même si je savais que c'était probablement un petit peu loin. Je crois qu'il reprenait 310 personnes et j'étais 600e, un truc comme ça.
J'ai été bien classée à mon premier concours. J'étais 320. Donc j'étais dans le numérus pour avoir mon concours en premier en one shot. C'était génial, moi j'étais ravie, j'y croyais pas. Et j'étais tellement ravie qu'au deuxième semestre, j'étais trop ravie. Et donc j'ai moins bossé.
Mon classement à l'issue du premier concours, j'avais une avance assez confortable. Et donc si je faisais à peu près la même chose au deuxième, enfin voilà, ça passait. Et donc, moi, ça m'avait pas mal rassurée. Et après, le deuxième semestre, bah, c'est pareil, tu bosses. Et à la fin, t'as un concours, c'était en mai. Et ça a été hyper dur la dernière semaine avant le concours, je m'en souviens encore. J'arrivais plus à travailler, je passais des après-midi entières sur YouTube à regarder des vidéos nulles, parce que j'en pouvais plus. Des reportages sur des pays lointains. J'en pouvais plus de faire des biostatistiques. Bon, et au final, c'est passé, donc voilà.
Si j'avais raté cette première année de médecine, j'en aurais clairement pas fait une deuxième.
On a platement redoublé notre première année.
J'ai pas eu. Et donc, catastrophe. Et donc, je recommence. Et au final, c'est une très bonne année pour moi. Enfin, je garde de bons souvenirs pour plein de raisons. Parce que j'ai rencontré Cyril, déjà, avec qui je suis encore. Et j'ai rencontré plein de potes. Et on se soutenait vachement, on se voyait pendant les pauses. On mettait un peu le bazar dans les tutorats ou dans les amphis. Un petit peu. Doublant quel est votre métier, je crois, il disait ça en hurlant, mais vraiment en hurlant dans l'amphi. Ah oh, et ça résonnait dans tout l'amphi, c'était trop cool. Ça nous faisait bien rire, et c'était juste, ça faisait partie du truc qu'ils disaient qu'on voulait bien aller au concours blanc le samedi matin, tiens. Parce qu'on savait qu'on allait se retrouver tous au même endroit et qu'on allait pouvoir retourner un peu l'amphi sur le plan sonore. Enfin, donc, on n'est pas physiquement l'amphi, mais. Un mec qui pétait un câble, moi je trouvais ça génial. Enfin, nous, ça nous faisait bien rire. C'était pas du tout dans le but de les déstabiliser. Parce que nous aussi, on voulait avoir la paix, hein, tu vois. Le but, c'était pas de les déconcentrer. Moi, je faisais concours pour moi et je me battais contre moi-même plus que je me battais contre les autres. C'était pas du tout malveillant. Je sais pas comment eux l'ont vécu, mais nous, en tout cas, c'était juste drôle. Je sais pas, c'était une petite bulle dans le temps, tu vois. Où les choses étaient un peu... Les normes étaient plus les mêmes et ta façon de voir le monde est plus la même pendant 2 ans.
Mais est-ce que ça y est ?
Et puis après, tu sors de là et puis t'es en P2 et tu dis j'ai plus à bosser, qu'est-ce que je fais ?
Une fois la première année de médecine passée, c'est un peu plus cool parce qu'on n'a pas on n'a plus de concours jusqu'à un long moment. Et j'allais un peu à la salle de sport, je travaillais, le week-end je voyais mes amis, je voyais mon chéri.
J'ai joué au rugby, on a fait créer une équipe de rugby à la fac, c'était trop bien. Donc je me suis fait des hyper bonnes copines, on a créé un groupe très soudé, ça m'a accompagnée toutes mes années de fac, franchement, de la P2 à la D3, donc c'est la 5e année.
Moi on était donc une vingtaine à peu près, on a été 3 à passer, ce qui respectait un peu la proportion de gens qui passent en médecine. Et du coup t'arrives en P2, et je suis passée d'une meute où on était 20, genre un peu comme une portée de chiots, tu vois, où on se serrait tous... les uns contre les autres, on se soutenait, on était tous vraiment hyper, hyper soudés. Et quand il y avait un maillon faible, entre guillemets, on était tous à se soutenir. Et là, t'es tout seul. Voilà. C'est un peu nul, hein.
Et le gros vecteur qui a permis un petit peu d'ouvrir tout ça, ça a été la fanfare de la fac de médecine.
Il y avait des soirées, je sais pas, peut-être une fois par mois. Mais c'est pas toutes les semaines.
Je crois pas que mes fêtes soient très différentes des fêtes que tu peux avoir en école de commerce, par exemple.
C'était quand même assez astronomique niveau fête.
Je t'ai jamais eu une soirée comme ça. C'est énorme.
Apparemment, il y a un bail où l'ambiance est bizarre. Mais vu que moi je suis dedans, je me rends pas compte. Mais c'est vrai que déjà aux soirées médecine, t'as un open bar, ce qui n'est pas le cas de toutes les soirées.
C'était forcément des lendemains assez difficiles, ouais.
Et ils font des bassines de cocktails dans lesquelles ils me font le mélange vodka orange, par exemple. Ils te foutent, je sais pas, alors peut-être quelle bouteille de vodka et je sais pas combien de bouteilles de jus d'orange. Ils te font ils te servent les cocktails comme ça. Donc déjà, c'est un peu chelou, déjà, de base. Donc ça fait un peu crado. Mais c'est propre, c'est juste que c'est pas habituel comme façon de présenter le truc. Et évidemment, bah, vu que tu donnes dans des gobelets, ça en met un peu partout autour du bar. Puis au fil de la soirée, ça fait de plus en plus flac. Puis tu vas dans la soirée, plus ça coule. Et moins t'es précis aussi quand tu fais ton verre et que tu le bois. Et voilà, ouais, les gens sont bourrés, mais je pense que ça, c'est dans toutes les soirées. Vu que tu sais que ça va être ça l'ambiance, tu viens habillé crado. Une fois sur deux, tu mets des bottes en caoutchouc parce que par terre, il y a une espèce de fluide, une mare progressivement qui se forme. Tu mets tes vieux pantalons, tu mets tes vieux t-shirts. Et nous, on était beaucoup à avoir des bananes. C'était avant la mode des bananes, les précurseurs. Et donc, j'avais mon téléphone dans mon petit zip qui était dans ma banane avec le truc du vestiaire et les trucs comme ça. Et donc, on se baladait un peu tous avec notre banane. Et donc, t'as un peu une dégaine bizarre, globalement. C'est une dégaine dégueulasse, qu'on se le dise.
Non, sur la deuxième et troisième année, non, clairement, il y avait pas beaucoup de travail. C'est pour ça que c'est un truc qui s'est rapidement arrêté ensuite parce que j'estimais en avoir fait le tour, enfin en tout cas en avoir bien profité, et parce que ça me paraissait pas compatible avec les objectifs que je voulais pour le concours de l'internat.
À partir de la quatrième année de médecine, on rentre dans l'externat. Donc là, on a les stages à l'hôpital qui deviennent quotidiens. On apprend pour exercer. Jusque-là, on apprenait des choses pour comprendre la physiologie, comment le corps fonctionne. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Enfin, en tout cas, moi, ce que je cherchais quand je suis rentrée dans des études de médecine, je voulais pouvoir soigner des maladies. Je m'en foutais de savoir que la membrane de la cellule est faite de phospholipides et que ces phospholipides, nanana...
Mon rêve, c'était de choquer, de défibriller les patients. Je trouvais ça trop cool. Je trouvais ça trop stylé. T'arrives un peu en mode... je sais pas, genre, moi j'ai toujours cette ambiance que c'est cette idée que quand le médecin il arrivait sur place, c'était un peu genre Superman qui arrivait, tu vois.
C'est les années où tu apprends l'homme malade, t'apprends toutes les maladies organe par organe. Tu comprends plein de choses. Et puis, petit à petit, il y a plein de trucs qui cliquent et qui se mettent en place. Et tu fais des liens et tout. C'est hyper stimulant.
J'avais mis ma blouse, mon badge, mon stéto. Et j'avais envoyé une photo à mes parents. Donc, ouais, le premier jour avait déjà commencé chez moi, alors que j'étais même pas encore à l'hôpital.
La blouse et le stéthoscope, je pense que c'est l'emblème un peu. En tout cas, pour moi, c'est un peu l'emblème de la médecine. Avoir ma blouse et mon stéto.
En rentrant dans la première chambre d'un patient. Il y avait voilà, les cathéters, les pousses seringues, l'écran qui avec la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le respirateur, la ventilation mécanique. Je me suis dit, ouais, ça a l'air très lourd en charge de soins et ça a l'air un défi à chaque fois assez intéressant. Je me suis dit que ça serait effectivement cette spécialité qui me plairait et puis je l'ai confirmé avec d'autres stages en réanimation pendant l'externat.
Quand t'es externe à l'hôpital, on ne te calcule pas trop. Enfin, t'es vraiment en bas de la chaîne alimentaire. Et tu sers à rien, clairement. Enfin, ou vraiment pas à grand-chose. T'es vraiment très infantilisé. Alors que t'as 25 ans, quoi. Bon, après, 25 ans, t'es pas très vieux, mais t'es pas non plus un enfant. Et à l'hôpital, tu découvres un monde, quoi. Les codes à l'hôpital, il faut déjà bien comprendre qui fait quoi. C'est une vraie fourmilière avec plein de rôles très découpés. Il faut comprendre... qu'est-ce que c'est un brancardier? Qu'est-ce que c'est une aide-soignante? Qu'est-ce que c'est une auxiliaire de puériculture? Qu'est-ce que fait une infirmière? Qu'est-ce que fait une IBOD? Qu'est-ce que fait une IAD? Qui tu vouvoies? Qui tu tutoies?
Est-ce que toi aussi t'es ma meilleure? Moi, je commence à
être. Quand t'apprends la médecine, il faut savoir qu'au début, t'as pas de rôle. Parfois, ton rôle, c'est juste de te taire et c'est hyper dur de pas parler.
sais pas, oui, je me rappelle de la méga gueule de bois samedi matin, et je devais aller en astreinte, j'étais externe. Et pendant toute la visite avec la chef, enfin, on va voir une patiente, et je sais plus, je pense qu'on la découvre, je sais pas s'il y avait vraiment une plaie ou quoi, mais vraiment, genre, ça commence à monter. Et à un moment, je lui dis, je dis à ma chef, attends, j'ai oublié mon marteau réflexe, je reviens. Et je pars courir jusque dans le vestiaire, vomir une première fois. Voilà, je reviens à peu près. Et à un moment, pareil, j'essaye de m'exfiltrer pour aller vomir trois fois au final dans la matinée. Et voilà, et ça, je m'étais dit, oui, ça m'a fait rire. En plus, les chefs s'en sont moqués, ils m'ont chambré pendant des semaines avec ça. Mais je m'étais dit, en fait, ça quand t'es interne, tu peux plus te permettre ça, quoi. Enfin, c'est très bien, tu t'es permis ça, mais dans trois ans, c'est plus possible, quoi, plus jamais.
J'ai fait deux stages, j'en ai fait un en réanimation médicale et un stage de trois mois en tant qu'externe en réanimation chirurgicale. Et c'est trop bien. J'ai adoré ces stages. Et après, j'ai fait des soins intensifs de pneumo, qui sont le cran en dessous de l'aréa. Et sauf que là, pour le coup, ce stage, il y avait les astreintes, les gardes. On faisait pas des journées complètes, mais ils étaient en sous-effectif d'interne, donc les externes faisaient un peu le taf des internes. Et là, pour le coup, ce stage-là était horrible. Et c'est là qu'a résonné une phrase d'un de mes chefs de réa, qui me disait fais attention. Enfin, je lui avais dit, je lui fais à demi-mot, j'ai pas fait la fangirl, tu vois, mais à demi-mot, je lui avais dit qu'il m'avait beaucoup inspiré et que quand je serais plus grande, je voudrais être comme lui. Et il m'a dit, écoute, t'as bien raison, c'est un super métier, mais méfiance, moi j'ai deux filles qui ont 3 et 5 ans, et je les ai pas vues grandir. Et je me suis dit, en fait, ça va pas aller, ça va pas être possible. Et je le vivais un peu comme un échec en me disant, j'abandonne quelque chose que je voulais faire depuis toute petite parce que je voulais faire ça. Et quand j'ai décidé de finalement pas le faire, y a tout le château de cartes s'écroulait, quoi. Et au final, je suis tombée sur les urgences en me disant, en fait, le seul endroit où j'étais contente d'aller travailler vraiment, c'est quand je faisais mes gardes aux urgences. Et voilà, j'ai fait mon choix et je suis ravie.
Là, on voit son cœur qui est juste ici. Là, on voit l'estomac.
Moi, le début de mon internat, j'avais l'impression de commencer complètement. C'était vraiment un tout nouveau chapitre. Et tu te sens très, très nulle. T'as l'impression de rien savoir. Et puis j'avais une espèce de petit pense-bête pour interne dans ma poche de ma blouse, mais j'osais pas le sortir devant les patientes. Du coup, je disais, je reviens, je sortais, je regardais dans mon petit livre et je disais, c'est bon, donc en fait, on va faire ça et ça et ça, ou je vais vous donner telle dose antibiotique. Et ouais, au début, c'est dur, hein, franchement. Tu te déstresses très vite et tu prends le pli assez rapidement, mais moi, j'étais dans un stage où j'ai vraiment été lâchée, genre dans l'eau froide, et on va voir si tu sais nager, quoi. Et bon, au début, j'ai fait le petit chien, là. Et après, je me suis détendue, j'ai commencé à faire un peu la brasse. Mais ouais, après, j'en ai pas un mauvais souvenir. J'en ai un souvenir plus humoristique qu'autre chose. J'ai pas l'impression d'avoir été dans une détresse psychologique, moi. J'étais juste... je me sentais trop mal pour les patientes, plus qu'autre chose. J'avais l'impression d'être vraiment... Genre, ils avaient pas de chance, quoi. Ils étaient tombés sur le faux médecin.
Ce que je vois du cœur, c'est très bien. Rien de spécial.
Ma première garde interne, la patiente, elle est allongée. Je me dis, il faut que je lui fasse une échographie endovaginale. J'en avais déjà fait quand j'étais externe, donc je me dis, c'est bon, je sais faire, je vais le faire. Donc je prépare la sonde d'écho, je la mets dans le vagin de la dame. Tu mets quand même une sonde d'écho dans le vagin d'une dame, c'est pas anodin. Et là, ça s'affiche pas à l'image sur l'écran. Et du coup, je me dis, zut, je savais pas sur quel bouton il fallait que j'appuie. Donc j'avais la sonde dans le vagin de la dame et je me sentais tellement bête. Je n'osais pas lui dire, je suis désolée madame, je ne sais pas sur quel bouton il faut que j'appuie. C'était horrible. Et du coup, j'ai appelé ma chef à 18h02. Tu prends le bip à 18h en disant, je suis trop désolée et tout, mais en fait, je ne sais pas sur quel bouton appuyer pour changer de sonde. C'était vraiment la honte. A posteriori, je me dis que j'aurais dû enlever la sonde du vagin de la dame. Mais sauf que là, en fait, je me disais, je l'ai mis dans le vagin, il ne faut pas que je l'enlève. En même temps... Ça sert à rien ce que je fais. C'était vraiment un moment de solitude, mais tellement intense. Voilà.
Un interne, c'est un médecin.
Oui. Bonjour madame.
Polyvalent. plus ou moins confiant en fonction des caractères.
Un interne.
Il donne beaucoup de son temps et beaucoup de son énergie pour son métier.
Il est à la fois dans encore une période d'apprentissage, mais à la fois dans un rôle hospitalier assez prenant. Ouais.
On n'est pas diplômé, donc on est censé être là pour apprendre.
C'est un médecin qui est en formation à propos d'une spécialité et qu'il a choisi.
En vrai, on est assez vieux et assez compétent pour avoir des responsabilités. Pas assez vieux et pas assez compétent pour assumer pleinement toutes les responsabilités. Mais du coup, comme on peut en avoir, on en a beaucoup.
Je suis interne en psychiatrie à Marseille. J'ai été avant interne de gynécologie obstétrique. J'ai fait ce qu'on appelle un remords, c'est un changement de spécialité. Après un an et demi, donc 3 semestres d'internat de gynécologie obstétrique. Mon deuxième semestre de gynéco, j'étais super contente parce que j'ai pu avoir un poste qui s'appelait le poste d'interne volant. Finalement, au fur et à mesure de ce stage, il y a une interne qui a eu des difficultés, qui était elle interne dans un service précis. Et on commençait un peu à entendre des rumeurs sur elle, comme quoi elle était dangereuse pour les patients, elle faisait des choses vraiment qu'il ne fallait pas, sans vraiment qu'elle ait l'air au courant de tout ça. Et en même temps, elle avait l'air d'avoir de moins en moins de responsabilités, de choses à faire. On voyait qu'elle n'était pas très très bien. Et finalement, les chefs ont pu voulu qu'elle fasse de garde. Et cette fille-là est partie en arrêt, quoi. Dire à une interne de deuxième semestre qu'elle est dangereuse pour les patients, pour moi, les internes sont quand même sous la responsabilité des PH qui les encadrent et je ne vois pas comment c'est possible, surtout en deuxième semestre. Donc, bref, cette fille-là est partie en arrêt maladie et donc moi, je l'ai remplacée dans son service par la suite. Donc, on était 2 internes dans ce nouveau service donc, qui m'était en quelque sorte attribué. Et pas très longtemps après, l'interne avec qui j'étais a dû partir en congé maternité parce qu'elle était enceinte. Du coup, je me suis retrouvée toute seule assez rapidement, peut-être un mois après. Et rapidement, je faisais des horaires très élargis. Comme j'étais la seule interne du service, l'assistante refusait que je prenne mes repos de garde parce que sinon, il n'y avait personne dans le service. Sachant que ces gardes, on ne dormait pas du tout. Hein. C'est même pas le temps de faire pipi. C'était très, très compliqué. Le lendemain de ma garde, je partais entre 14 et 15 heures. Et comme j'étais toute seule dans le service, je faisais tous les samedis mois. Et en fait, du coup, j'avais pas le droit de poser de vacances non plus. Donc c'était en plein été à ce moment-là. Et donc initialement, comme j'étais pas dans ce service-là, j'avais prévu de prendre un week-end pour l'anniversaire de mon copain. Et du coup, de prendre un jour de vacances. Encore, c'était même pas un jour de vacances parce que j'étais de garde un jeudi. Donc logiquement, le vendredi, je ne devais pas travailler. Donc j'avais prévenu ma chef pratiquement un mois avant. Et en fait, cette assistante m'avait dit « Bon bah ok, si t'as quelqu'un pour te remplacer, pas de problème. » Donc le temps passe, puis on arrive au jour de cette fameuse garde. Et donc elle me rappelle dans la journée, elle me dit « Demain du coup, tu fais la visite. Hein. » Moi je lui ai dit « Ben je... » Non, on n'avait pas dit ça comme ça, tu sais, c'est l'autre interne qui doit me remplacer demain. Elle m'a répondu, non mais ok, elle te remplace dans la journée, mais tu fais la visite quand même. Elle ne m'a pas laissé le choix, en fait, elle m'a dit, non mais c'est tout, c'est comme ça, tu restes. Donc le lendemain de la garde, je me présente pour la visite. Et en fait, ce jour-là, elle a voulu interroger tous les externes un par un, pour chaque patiente, quoi. Et en fait, elle a fait durer la visite du service, quoi. En général, la visite, ça a duré 2 heures, habituellement. Et là, en ayant commencé vers 8h30, 9h. À midi, on était à la moitié du service seulement. Donc au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, je vais devoir y aller, donc je vais prévenir l'interne qui doit me remplacer, comme ça elle peut venir dès maintenant. Et en fait, elle a refusé, elle m'a dit, non, tu restes jusqu'à la fin. Il dit, de toute façon, tu dois faire les échographies après. Donc là, j'étais un peu énervée, je lui ai dit, non, mais c'est absolument pas ce qu'on a dit. Donc elle s'est un peu énervée en me laissant pas le choix. Et moi, j'ai craqué, je suis partie dans mon bureau et je me suis effondrée parce que j'en pouvais plus. J'avais enchaîné depuis quelques semaines déjà avec elle un rythme comme ça. Et où j'avais pas de repos de garde, pas de vacances. Là, tous les samedis matins, là, de 7h30 à 20h30, je savais plus quoi faire. Entre-temps, l'assistante qui vient me voir dans mon bureau et qui me dit « De toute façon, tu fais que pleurer, ça sert à rien, on peut pas te parler. » Et là, on a essayé d'avoir une mini-explication. Je lui ai dit « Mais si en ce moment, si je pleure tout le temps, c'est à cause de toi. Regarde ce que tu me fais faire. Je suis là tout le temps, je travaille tout le temps, il n'y a jamais rien de bien. Tu critiques tout le temps ce que je fais. J'apprends rien parce que quand je lui demandais des explications sur une pathologie, elle me disait t'as qu'à chercher dans des bouquins, c'est comme ça qu'on apprend. Donc c'était un peu compliqué. Et je me souviens que ce jour-là, je suis partie à 15h et j'en pouvais plus du tout, quoi. Sur le chemin du retour, ce jour-là, sur l'autoroute, je me suis dit. Si jamais je tourne le volant, j'ai une bonne excuse de pas devoir retourner en stage, quoi.
C'était le deuxième épisode d'Hippocrate, l'oreille interne. Une création sonore Canal+. Dans le prochain épisode, replongez dans le quotidien mouvementé de nos quatre médecins en formation. Plus tout à fait carabins, mais pas encore docteurs. Où se trouve l'équilibre entre humilité et assurance? Comment trouver sa légitimité lorsqu'on doit faire et apprendre en même temps? Hippocrate, l'oreille interne, est une série en 5 épisodes, écrite par Anna Buy et réalisée par Clément Nouguier, à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes de podcast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.